kamalisa na mali. Kamalisa, kamalise, kamalisa, kamalise, kamalisa, nareho pa marake. Kamalise, sumunjara reho. Kamalisa, malisa man na mali. Kamalise, zako. Kamalisa yano. Kamali Sariano, Kamali Sariano, Kamali Sariano.
Kilema Kamalisa sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'entonnoir qui va commencer.
Tu es fou enfermé, raison déconnecté. On t'attache à ton lit,
ton lit.
Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà la traveneuse. Ta solution aqueuse. Si c'est ça le médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça le médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça le médecine, je préfère la guillotine.
Radio Libertaire 89,4, la voix de la Fédération anarchiste, ni Dieu ni maître. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme tous les mercredis matins, de 9h30 à 10h30. Bonjour. Aujourd'hui, après d'abord une annonce, et puis on va écouter un témoignage. Sur le site internet de l'actualité lundi matin, une interview de Jonathan Boimard. On va en parler juste après. Donc cette annonce qui est la suivante. Dimanche 19 juillet, à Publico, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e. Projection, discussion à l'invitation du groupe libertaire d'Ivry. Projection de Chromosome 3 de David Cronenberg. Chromosome 3 de David Cronenberg. Voici le synopsis. Suite à une grave dépression, Nola Kravets est interné au Soma Free Institute du docteur Raglan pour y suivre une psychothérapie révolutionnaire, entre guillemets. Au cours de séances théâtrales, les patients sont incités à matérialiser leurs sentiments de peur, de tristesse et de colère par des manifestations organiques. Bientôt, la fille de Nola est victime d'étranges sévices, puis certains de ses proches sont sauvagement assassinés. Mais personne ne peut imaginer les conséquences engendrées par les expériences de Raglan. Alors, le titre en anglais, c'est The Brood, donc Chromosome 3 en français, est le troisième film de David Cronenberg qui préfigure l'horreur psycho-organique de Scanners et Videodrome. La projection sera suivie d'une discussion avec votre serviteur, animateur de l'entonnoir, Les dégâts causés par des expériences psychiatriques plus ou moins hasardeuses n'ont jamais été aussi dramatiques et spectaculaires, mais les psys en tout genre, n'ayant aucune obligation de résultat, peuvent s'adonner librement à toutes leurs théories pour, entre guillemets, soigner les individus pas forcément malades, mais souvent fragiles. Et peu importe s'ils subissent des effets secondaires destructeurs, et peu importe leur avis sur la pertinence des traitements, les patients sont impuissants face au pouvoir des psychiatres, surtout quand ils sont internés de force. Et voilà, donc nous rappelons au passage qu'est-ce que c'est l'entonnoir. Eh bien, c'est la critique de la psychiatrie. La psychiatrie comme double pratique répressive et commerciale. La psychiatrie est un dispositif qui relève à la fois de la répression et de la médicalisation. De la répression avec le pouvoir qu'exerce l'institution sur les psychiatrisés par l'intermédiaire de médecins et d'infirmiers qui, agissant comme autant de juges et de matons, soumettent chaque mouvement de circulation des personnes sous son emprise à une réglementation rigoureuse. Sous leur emprise, et ce même hors les murs des hôpitaux. En même temps, c'est un système qui procède à une médicalisation de l'individu par une action sur son système nerveux, lui imposant une consommation à vie de psychotropes pourtant dangereux, assurant au passage une constante prospérité aux grands laboratoires. Mais la psychiatrie œuvre aussi à la médicalisation de toute la société. Elle le fait à travers l'établissement de normes des comportements, d'interdits et de censures implicites, instillant à chacun et chacune une peur religieuse de la liberté de vivre. Le DSM, répertoire des maladies mentales, est un exemple visible d'un tel outil de médicalisation de nos vies. L'entonnoir fait aussi une critique du système médico-social en tant que prolongement de l'institution psychiatrique. Comme elle, historiquement au service de la bourgeoisie, il cherche à réserver une main-d'œuvre en bonne santé et surtout à la contrôler et à lui inculquer ses valeurs. À l'aide de témoignages, de reportages, d'ouvrages et d'articles, nous voulons informer pour remettre en cause la psychiatrie et le monde qui va avec. Donc, dimanche 19 juillet, à 16h, à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Et maintenant, eh bien, cette présentation du son que l'on va entendre dans quelques temps, dans 10 minutes à peu près, même à peine. Un lundi soir avec Jonathan Boimard autour de son livre « Une vie de fêlé, heure et malheur d'un patient ordinaire ». Alors ça c'est un petit article paru le 25 mai sur le site Lundi Matin. Alors le site Lundi Matin, ça n'a rien à voir avec notre Lundi Matin à nous, à Radio Libertaire, qu'on peut entendre tous les lundis matins à 11h. Non, rien à voir. Ici, c'est un site internet de journalistes, d'actualité. Voilà. Voici ce que raconte, ce que Jonathan Boimard raconte dans son livre. Diagnostiqué bipolaire, Jonathan Boimard nous plonge dans le quotidien léthargique et violent d'un patient ordinaire en désaffiliation psychique avec l'ordre des choses. Le récit explosif et éclaté d'une vie cernée par la psychiatrie, les molécules et les injonctions à être à peu près fonctionnelles. Son livre est paru vendredi 29 mai et il est à de nombreux égards exceptionnel. Voilà, donc la pub, parce que c'est aussi effectivement un livre édité aux éditions Lundi Matin. Donc les Lundi Matin qui a sa propre maison d'édition. Alors, en attendant cette interview, un extrait de cette interview, je propose de vous lire un article écrit par Jonathan Boimard lui-même, qui est paru sur ce même site lundi matin, le 23 juin 2026, sur Nicolas de Morant. Nicolas de Morant ou la sagesse bipolaire. Faire de, si besoin, vertu. Jonathan Boimard. Alors, l'auteur d'Une vie de fêlé, Heure et malheur d'un patient ordinaire, écrit cet article intitulé le sous-chapitre est intitulé Il est des nôtres, il a pris son Xanax comme les autres, point d'interrogation. Minuit environ, et comme tous les soirs, à cette heure-là, je m'apprête à avaler ce petit comprimé qui me permet toutes les nuits de ne pas trop gueuler, de ne pas trop chialer, et surtout de ne pas seulement somnoler. Le verre est le même, la cuisine est la même, la plaquette est la même, mais cette soirée est différente. J'ai enfin écouté, si besoin, et l'énième volonté de son auteur de faire des bipolaires une entité unique, unifiée et distincte. Ce Xanax que je vais m'enfiler est un si besoin parmi la panoplie d'antidépresseurs et somnifères existants. Quiconque est passé un tant soit peu, bon gré mal gré, par la psychiatrie connaît la chanson. Xanax, Valium, Zopiclone, et j'en passe. Ce titre du podcast sonne comme un signe de ralliement, de reconnaissance d'une communauté des malades mentaux unis, main dans la main, cœur contre cœur. Et pourtant, ce qu'omet ce podcast, c'est la ligne de démarcation qu'il trace entre ceux qui contrôlent leur consommation, s'évaluent, se gèrent, savent en prendre quand il le faut, et ceux qui se laissent avaler par la pilule blanche, faisant d'un si besoin un jamais sans. C'est mon cas, j'en suis dépendant. Fortement addictif, si besoin, c'est se révéler nécessaire, non plus à la carte, mais vital. Toujours avec, dans mes poches, dans mes sacs, dans mes placards, Xanax à la mer, Xanax à la montagne, Xanax fait ses courses, Xanax prend le bus. Je sais où ils sont, j'en ai besoin partout, tout le temps et toujours plus. Essayer de se sevrer est l'une des expériences les plus difficiles, et je sais de quoi je parle, je suis un très gros fumeur. Tout cela est nié dans le podcast. Seule est évoquée sa puissance positive, celle qui confère une certaine « marge de liberté », entre guillemets, et le signe qu'à un moment, on n'en a plus besoin. En plus de l'HP, mon « si besoin » est un nouvel enfermement. Alors, face au verre que je m'apprête à prendre, je m'approche de mon « si besoin » qui m'éloigne progressivement, n'en déplaise aux médias, de Nicolas Demorand. Nous avons bel et bien eu le même « si besoin », mais nous ne serons pourtant jamais les mêmes patients. Société valide, parole validée. Les sociétés modernes ont leur sagesse automatique. Elles circulent sans auteur et n'ont pas besoin d'être vraies, juste du bon sens. Il suffit qu'elles soient répétées pourvu que le canal soit important. Il faut libérer la parole. La santé mentale est l'affaire de tous. Faire confiance aux soins est essentiel. Autant de phrases qui font écho aux témoignages de ce journaliste quand elles ne sortent pas tout simplement, presque littéralement, de son micro qui l'attend depuis des mois. Ces formules ne décrivent pas seulement le monde, elles l'organisent. Si besoin s'inscrit dans cette organisation, non comme exception, mais comme modèle. Une crise, maniaque cette fois-ci, une hospitalisation à Sainte-Anne, quelques semaines, un diagnostic, bipolaire, toujours, puis un retour à l'antenne, France Inter, toujours. Le schéma est immédiatement lisible, balisé, simplifié, unifié. Il devient exemplaire. Le Nouvel Obs parle du podcast « Courageux et nécessaire » de Nicolas Demorand, tandis que Télérama salue un témoignage singulier et Le Monde met en avant un retour qui vise à aider si besoin ceux qui souffrent de maladies mentales. On appelle cela témoignage, on appelle cela courage, on appelle cela déstigmatisation. Mais ce sont aussi des opérations de tri. Le récit est autorisé parce qu'il revient dans les cadres. La polarité est nommée, le traitement est évoqué, de longues minutes sur la kétamine et ses effets intrigants, risibles, presque glamour. L'hospitalisation est racontée sans véritable interrogation de l'institution qui l'a rendue possible. Le seul moment où Nicolas Demorand a pensé que son hospitalisation sous contrainte était de l'enfermement violent fut lors de sa phase maniaque. Il comprit après, une fois la raison retrouvée, que c'était pour son bien. Sa folie est passagère, sa sagesse éternelle. Rien ne déborde durablement, tout est contenu, continu. Dire est encouragé quand il est un miroir dans lequel la psychiatrie peut se complaire admirablement dedans. Dans si besoin, la parole passe par les catégories disponibles prêtes à penser. Troubles bipolaires, crise, soins, stabilisation. Même l'intime devient intelligible à travers le lexique du diagnostic. En ce sens, la parole ne guérit pas, ne se libère pas, elle ne s'arrache pas non plus, mais elle est filtrée, validée. C'est bon, rien à signaler, vous pouvez circuler. Nicolas revient parmi les siens. L'éternel retour comme preuve. Sur France Inter, Nicolas Demorand déclare « Si vous me posiez la question, je dirais que ça va plutôt pas mal. Les tourments sont derrière moi. » Après 6 mois de silence, Nicolas Demorand revient apaisé, titre plusieurs médias, dont Télérama. « Nicolas Demorand, de retour au micro de France Inter !» annonce Gala. « Nicolas Demorand reprend le micro pour revenir sur sa bipolarité !» écrit Le Monde. Un homme s'effondre, est pris en charge, puis revient à l'antenne. Donc le système fonctionne, le raisonnement paraît naturel. Il est pourtant circulaire. Tout ce qui ne revient pas disparaît du champ de vision. Les hospitalisations qui s'enchaînent, les patients durablement précarisés par leur passage en psychiatrie, les trajectoires qui ne retrouvent ni emploi, ni reconnaissance, ni micro de radio, ce qui ne revient pas ne compte pas. La figure du retour ou bien de la réhabilitation produit alors un effet particulier. Elle transforme une expérience individuelle en preuve implicite de l'efficacité du dispositif qui l'a prise en charge. Le podcast de Nicolas Demorand est la preuve que la psychiatrie fonctionne. La crise devient démonstration, le retour devient argument, et ce qui échoue à revenir cesse progressivement d'être racontable. Le retour possible est louable, alors l'échec coupable. Quand la confiance devient une vertu, la défiance un symptôme. Nicolas Demorand affirme sur France Inter que « le danger supérieur, c'est d'être malade et dans une relation de défiance avec le soin, les soignants, les médicaments. » La formule est moralisatrice, révélatrice, c'est elle qui a été la plus retenue. La défiance y apparaît comme un risque supplémentaire, presque comme une erreur. Mais la défiance a une histoire. Elle ne flotte pas dans les airs, elle s'enracine, pousse, mûrit. Elle peut naître d'effets secondaires lourds. J'ai moi-même l'impression qu'il s'agit de l'inverse, que certains psychotropes m'ont défié et continuent de me défier encore. Moi, mes intestins, mon estomac et en définitive mes toilettes. Elle peut naître d'hospitalisation sous contrainte et ses multiples traumatismes. Et si depuis ma première hospitalisation, je ne peux quasiment plus rester les fenêtres fermées, je préfère malgré tout y être, même sous 2 degrés, qu'être dans une piole d'HP surchauffée quand elles le sont. Elle peut naître d'un sentiment de dépossession, de diagnostics vécus comme des identités imposées, de promesses thérapeutiques vaines et de situations sociales complexes. La confiance n'est pas une évidence. Elle est un résultat situé socialement. Elle est surtout position. Faire de la confiance une vertu universelle revient à rendre plus difficile la critique de l'institution qui la réclame. L'expérience de ceux qui se méfient du soin devient alors suspecte avant même d'être entendue. Aller dire à quelqu'un à qui on a sondé son pénis pour cause de rétention d'urine due à un antipsychotique qui n'a pas de raison de défier les médicaments. Le langage du soin est le réel. Revenons au podcast. Si besoin est une expression clinique, une formule d'ordonnance, une catégorie du soin, une formule qui appartient déjà au monde psychiatrique avant même que le récit ne commence. Et pourtant, c'est sous ce signe que l'expérience va être racontée. Ce podcast est un rendez-vous chez le psychiatre. C'est peut-être là la victoire la plus complète d'une institution, lorsqu'elle n'a plus besoin d'imposer ses catégories parce qu'elles sont devenues spontanées. La crise devient symptôme, la rupture, un trouble. L'effondrement, un épisode. La vie, un parcours de soins. Le sujet parle encore, mais dans une langue qui le précède. Il croit raconter son expérience. Il raconte déjà son dossier. Il est lui-même un dossier sur pattes qu'on ressort si besoin. La force du titre est là, ce n'est pas seulement une référence aux médicaments qui pris en cas de crise. C'est une manière de dire que la crise elle-même est déjà comprise, depuis le point de vue du traitement. L'événement est pensé depuis sa gestion, la rupture depuis sa correction, le désordre depuis sa normalisation. Tout se passe comme si l'expérience n'avait plus à être interprétée, mais seulement régulée. Comme si la question n'était plus « que nous arrive-t-il ?» mais « quel protocole appliquer ?» Évidemment, au cas par cas, tout le monde est différent. Ultime mantra que la psychiatrie aime répéter pour montrer sa grande humanité. À partir de là, la psychiatrie cesse d'être simplement une institution parmi d'autres. Elle devient une manière d'organiser le réel. une manière de décider à l'avance ce qu'est une crise, ce qu'est un sujet, ce qu'est une guérison. Une manière de rendre certaines expériences immédiatement intelligibles et d'autres pratiquement impensables. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis 10 ans, écrit donc Jonathan Boismard, oui. Une manière de rendre certaines expériences immédiatement intelligibles et d'autres pratiquement impensables. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis 10 ans à pouvoir me raconter dans la psychiatrie. Le podcast, lui, a été créé en quelques mois. La véritable puissance du langage psychiatrique n'est pas de convaincre, c'est d'apparaître comme le simple langage des faits. Je suis malade mental, ah bon, oui, ah d'accord, fin de la discussion. Le bon patient, il se soigne, mais c'est un bon patient, quoi. Ça, c'est entre guillemets. Chaque époque fabrique ses figures exemplaires. La nôtre a produit le patient transparent, celui qui reconnaît sa maladie, celui qui accepte son diagnostic, celui qui raconte sa crise dans les mots du soin. Celui qui remercie, celui qui revient. On lui demande d'être sincère. Mais pas seulement, on lui demande d'être aussi rassurant et de prouver que les institutions fonctionnent encore, enfin qu'il est possible de tomber sans sortir du monde. Nicolas de Morant occupe aujourd'hui cette place, non pas parce qu'il l'aurait choisi, mais parce que tout concourt à l'y installer. Le journaliste devient patient, le patient devient témoin. Le témoin devient porte-parole, et bientôt le porte-parole devient la maladie elle-même. À travers lui, ce n'est plus seulement un homme qui parle, mais une certaine manière de raconter la folie qui obtient soudain le monopole de la respectabilité. La bonne folie, la folie diagnostiquée, la folie traitée, la folie réconciliée, adoucie, la folie devenue maladie mentale. Pendant ce temps, d'autres paroles attendent à la porte, celles qui parlent de violence psychiatrique, celles qui refusent les catégories diagnostiques, celles qui ne remercient personne, celles qui ne reviennent pas et qui souffrent aussi. La question n'est donc pas pourquoi écoute-t-on Nicolas de Morant. La question est pourquoi est-ce toujours ce type de patient qui finit par représenter tous les autres. Dans toute institution, le témoin idéal vient confirmer le fonctionnement de l'institution. La psychiatrie n'échappe pas à cette règle. Si la psychiatrie, symphonie impeccable, a trouvé sa majeure, elle créera aussi sa mineure, son ou sa critique attitrée qui la renforcera par ses mots, ses gestes. Ne nous y trompons pas, le patient défiant, exemplaire, existe aussi. Pour le dire symboliquement, c'est peut-être celui qui a flirté avec la limite du « si besoin », mais pas trop. Eh bien, je vais écouter maintenant donc cette interview de Jonathan Boismard. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur cette interview, on va l'écouter, voilà, tout simplement.
J'ai vu une neuropsy qui était très très sympa et on a discuté et elle me pose la question mais bah, comment vous vous sentez et moi je dis
libération par lente de poser cette la question ouais. De la maladie etc. Et ça en fait c'est un peu une question transcendère mais comment ça t'est venu
donc
cette idée,
ça c'est un extrait donc de la
de disperser on va dire à la fois les points d'énonciation et à la fois les styles quoi.
C'est un extrait donc de l'interview donnée par je ne sais pas son nom en fait c'est ça doit être aussi l'éditeur de son livre parce que apparemment il a écrit la quatrième de couverture donc l'animateur de l'émission lundi soir
justement les lettres par exemple déjà c'est un truc qui est assez marrant parce que c'est ce que souvent mes psys me proposaient de faire. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous écrivez une lettre, ça fait du bien, puis vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, etc. Puis si la personne n'est plus là, le truc assez. Et je me suis dit, je vais essayer et ça a marché. C'est vrai que j'avais essayé pour une personne, ça a marché. Ma première psychiatre, j'aimerais bien lui dire mes quatre vérités et comment. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'un point de vue à la fois émotionnel, mais aussi pour prendre un peu de distance, en fait, à chaque fois, les deux comme ça. Donc, à la fois, ça vient un peu comme ça, et en même temps, je... Par exemple, pour le CMP, ce qui me paraissait intéressant, moi, vraiment, la question, quand je pense au CMP, c'est les hiérarchies. Donc là, bon, écrire une lettre à la hiérarchie ou je sais pas quoi, ça va pas. Et là, tout de suite, moi, quand je vais dans un couloir de CMP, quand je vais au CMP, quand une psychiatre me parle, etc., je pense à la socio, parce que je viens de là. Et du coup, bah, dans ma tête... je me suis souvent fait voilà des repérages de ah ouais mais là c'est là ça a l'air d'être un peu un lieu de pouvoir et puis ci et puis ça donc j'ai l'impression que la forme elle est venue à peu près comme ça parce que c'est comme ça que j'analyse les lieux quand j'ai envie de penser à mes hospitalisations je pense davantage à mes psychiatres qui m'ont hospitalisé et j'ai envie de leur dire mes quatre vérités dans une petite lettre
Ouais, alors là tu dis, alors tu dis que la lettre, elle permet, enfin la forme de la lettre, de l'adresse comme ça, elle permet de prendre une certaine distance et avec le fait en question et toi avec ta situation, etc. Mais il y a aussi, alors le livre, il est entrecoupé de ce que t'appelles des patchwork, ouais. Donc des patchwork de mots et qui eux par contre sont, on va dire, complètement au ras du réel. Je ouais. lis juste le début du dernier qui lui s'appelle Patchfolk, fragment de gens. Donc enfin, l'introduction c'est dans ma piole, dehors, à l'HP ou au CMP, il y a ceux vus, ceux connus que j'ai perdus comme une mosaïque qui ne se laisse jamais décorer, cet écorché qui balance son assiette, celle qui a signé, celle qui m'a vu saigner, ce petit chauve aux shorts et t-shirts en hiver, Forrest Gump qui se rase la tête du jour au lendemain, celui qui me reproche de prendre des médocs, ce marxiste qui lit Casanova dans sa chambre, cette hirsute qui déteste Mélenchon, cette coquette au gilet rouge qui trouve toujours le temps gris, celle qui pense qu'elle est possédée, celle qui se retrouve à la rue, ceux qui viennent juste pour manger, celui qui ne prend pas ses médocs, cette fille qui m'attend à la sortie, celui qui se prend pour Ronaldo, celui qui n'écoute que Bob Marley, le Rasta qui déteste le reggae, celle qui souhaite que ma compagne me quitte, celle qui me demande toutes les 30 minutes si ma fille va bien, celui qui m'a accompagné, cette sortie tout droit d'un manga, celle sortie tout droit d'un manga qui dessine partout, celle qui me demande si j'ai de la pré-gabaline à lui filer, celle à qui les médocs ont changé la vie, celle qui galère avec sa MDPH, etc. Bon, après, ça continue comme ça. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus... là, c'est un peu de l'enquête de terrain. Enfin, c'est pour le coup, c'est un peu au ras du réel, quoi.
Oui, et puis à la fois, c'est bah du coup, ce sont des personnes que j'ai connues, mais que j'ai pas eu envie de décrire, mais juste presque comme si c'était des images, voire enfin, plus des images que des concepts. Mais je pense que n'importe qui est allé dans un HP ou même au CMP. Peut-être c'est, ah ben moi j'ai vu cette personne-là, moi j'ai vu cette personne-là. Donc en fait, plutôt que de faire quelque chose, bah voilà, l'hôpital psychiatrique ou le CMP ou le CREP, c'est aussi des gens. Bah moi j'ai fait un truc qui voilà, c'est un peu séparé, mais en même temps ça forme aussi une espèce de paysage, quelque chose de beaucoup plus vivant, et je trouve qu'il y a rien de plus vivant qu'une suite de mots, et rien de plus rythmé que ça. On n'est pas obligé de faire des grandes phrases parfois, et en fait je pense que je pense à des personnes que j'ai côtoyées, ou soit de près soit de loin, comme ici. J'ai pas envie de faire des grandes phrases, je trouve que c'est beaucoup plus leur rendre hommage que de leur dire bah la fille manga, enfin la fille qui dessine des mangas, voilà. Et quand je réfléchis à d'autres sujets, et je reviens sur par exemple sur le diagnostic, là c'est à la fois ce que le diagnostic en gros c'est j'explique le rapport que le diagnostic est un rapport. Là, on est sur quelque chose de... C'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de littéraire ou quoi. Et en fait, finalement, il y a à la fois... côté un peu littéraire avec avec la lettre, parce que je trouve qu'il y a ça peut faire de la belle littérature, la folie, mais ça a aussi été étudié de manière très très sérieuse avec des gens peut-être qui n'y sont jamais allés, et c'est bien aussi. Bon bah moi j'ai un peu toutes les casquettes, j'aime bien la socio, j'aime bien la philo, j'aime bien la littérature, la poésie ça me fait marrer, donc voilà, ma première psychiatre je l'appelle Malibellule, et c'est marrant. Enfin, je trouve ça marrant parce qu'en fait, la libellule, c'est un insecte qui arrive à regarder à 360. Et quand en fait on est à l'HP, on a l'impression de se faire complètement observer de partout. Et je trouvais ça marrant en fait ce côté-là. Et je l'ai souvent appelé ma libellule. Et voilà. Et je m'en souviens assez. Et voilà. Et le premier texte est plutôt un texte un peu, bah, on l'avait publié sur lundi matin, qui était un peu punchy, quoi. Parce que là, c'est vraiment là du coup, c'est allez, parle-moi de la psychiatrie. Et là, j'ai envie d'envoyer, j'ai la rage, j'ai vraiment la rage, j'ai même plus envie de parler de libellule, et donc du coup là c'est un texte plutôt incisif, et qui est incisif parce que en plus je sortais de ce que ma psychiatre avait nommé un virage maniaque, ou enfin hypomanie avancée. Donc parce qu'en plus deux trois semaines après elle m'avait dit non mais on sait pas, vous êtes mix, on sait pas, bon bref, donc moi bipolaire mais je suis type 1 et j'en parlerai tout à l'heure, et je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, oui, et du coup le contexte, parce que le contexte il est là, ça part de là, c'est que j'ai failli être envoyé à l'HP parce que je commençais un peu à partir dans un virage maniaque, c'est-à-dire un peu partir, j'en parlerai après, mais de perdre pied, et en redescendant j'ai lu un article sur lundi matin qui parlait de la façon dont certains intellectuels de gauche abordent la question de l'autisme, mais aussi la psychose et de manière générale la souffrance. Et le fait d'être relégué un peu, figure un peu de souffrance comme ça, et cet auteur là qui s'appelle Olivier Brisson, qui a écrit l'article, est un psychomotricien.
Qui était un article en réponse à au bouquin de Luc Bert, de Frédéric Lordoin,
ouais, mais je sais plus l'étonnant les aboutissants. Et bref, et à la fin il dit écoutons un truc comme ça. Écoutons les principaux concernés. Je dis, oh mais il est écrit pour il est écrit pour moi. Et en fait, bah j'ai écrit sans. En fait, au départ, je voulais juste me présenter à vous. Et en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais écrit un truc qui ressemblait à un article. Et du coup, on a décidé de le publier. Et après, je suis redescendu. Et puis voilà. Mais je trouve que c'est important d'ailleurs ce truc-là, parce que alors je veux pas en faire du storytelling. C'est pas du tout le but, mais c'est la vérité. C'est que en redescendant tranquillement, sans aller à l'HP, j'ai gardé cette énergie-là pour écrire cet article-là. Et c'est aussi une façon un peu de montrer que d'accord, dans des phases maniaques, et on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est, mais dans des phases maniaques ou même dans des phases dépressives, il y a évidemment le caractère dangereux, la souffrance, etc. Mais je pense qu'on peut en dégager des choses plutôt positives, dont le texte essaie de discuter et de rendre compte. Donc voilà, c'est différents textes.
Et ben ça, enfin ça, ce point-là, je pense que c'est vraiment un truc que je pense qui est important, c'est que au fil de les, après je reviendrai sur comment est-ce qu'on l'a publié, mais au fil du travail d'édition, quoi, quand on faisait des allers-retours avec toi, etc., et qu'on le relisait et tout ça, moi quand je le faisais lire à des gens, je me disais ah tu vois c'est hyper marrant, et parce que moi j'étais un peu à l'intérieur du texte, on en discutait ensemble, etc., et puis bon bah bizarrement les gens autour ils sont là genre bah marrant coussi coussa, quoi. Et donc je vois bien que c'est sûr que c'est pas un livre marrant, mais bon il y a plein d'espèces de bah, moi ce qui fait que je disais ça, c'était deux choses. La première, c'est que bon il y a beaucoup de pointe d'humour. Et en général, quand on raconte une situation qui n'est certainement pas dramatique, mais en tout cas dure et violente, quand on arrive à y déceler des moments drôles, ça l'est d'autant plus. Mais aussi, la deuxième raison, qui à mon avis est bien plus importante, et c'est celle en fait que tu viens exactement dénoncer là, c'est-à-dire que c'est pas un récit victimaire de oh là là, tout ce qui m'arrive est absolument horrible, parce qu'il y a aussi des passages entiers où t'expliques entre guillemets ce que la maladie fait de bien, enfin je le dis un peu vulgairement, et ça permet d'arriver un peu sur une autre question parallèle, mais qui reprend mon fil, mais tu pourras répondre un petit peu à tout en même temps, c'est que donc, quand on t'a proposé le livre à la suite de deux articles que tu nous avais envoyés, qu'on avait publiés, qu'on avait trouvé vraiment excellents, après on avait organisé un lundi soir sur la Mad Pride, et donc on s'est dit ah bah tiens, on te connaissait pas du tout, on avait juste lu les articles, on s'est dit ah bah tiens, le gars des articles, faut lui envoyer un mail pour lui proposer de venir, ce qu'on a donc fait, et ensuite t'es venu et t'as participé à cette discussion. Et bon, et à la suite de ça, on t'a dit ah, tu veux pas faire un livre, t'as dit bah ça tombe bien, j'en ai un quasi entier sous le coude. Et le premier truc que tu disais deux choses à ce moment-là, toi du point de vue ce que tu voulais faire avec le livre, c'était le premier, c'était que tu voulais pas ajouter au livre témoignage. Et bon, et le deuxième, c'était pas ajouter à l'idéologie qu'elle soit antipsychiatrique, etc. Mais juste sur cette question du témoignage. Et à ce moment-là, il y avait tout le truc sur De Morant, etc. Mmh. Et en blaguant, mais en fait pas en blaguant, tu disais il faut faire l'anti-De Morant, quoi. Enfin, est-ce que ça, tu peux expliquer ce truc, le pourquoi est-ce que ça te saoule le caractère, le côté témoignage et peut-être même Nicolas De Morant.
C'est pas que ça me saoule le côté témoignage, parce que moi en plus j'en ai lu, et c'est ce qui a un peu déterminé le fait de bah pourquoi pas moi aussi j'ai des choses à dire. Moi je pense notamment à deux trois livres qui ont été vraiment en tout cas décisif pour moi. Il y a le livre de 13 qui a écrit sur les violences qu'elle a subies en hôpital psychiatrique, la lourdeur des médicaments, etc. Et en plus, elle intercale avec parce qu'elle est slameuse, donc il y a de la poésie, donc c'est un peu hybride aussi. Il y a le livre Barge d'Elo qui parle de, je crois que c'est Elo, je sais plus, mais qui parle de ses délires mystico-politiques, comme elle dit. Mais en fait, c'est des carnets qu'elle tient. Et il y a aussi le livre qui est pour le coup peut-être un témoignage un peu plus dans ce qu'on imagine être un témoignage, c'est le livre de Philippe Amott. Et c'est moi qu'on enferme, où elle explique c'est son premier enfermement quand elle était jeune, à 20 ans, et y a toujours, sans que ce soit forcément complètement déstructuré, il y a toujours quelque chose qui n'est pas complètement, dans ce témoignage-là, qui n'est pas complètement de l'ordre du témoignage linéaire.
Le témoignage de Morant.
En gros, et c'est même pas lui, d'ailleurs, c'est même pas lui en vérité. C'est plutôt déjà le processus, le dispositif émotionnel, etc. Ce qui m'a gêné, c'est que justement il y a tous ces livres là dont j'ai parlé, et en fait on retient que celui-là. Mais moi j'estime quand même témoigner, mais j'ai l'impression que je témoigne pas, ou que je ne parle pas de la psychiatrie, je parle depuis la psychiatrie et à la psychiatrie, et d'où le fait des lettres, parce que en fait les lettres, les lecteurs vont aussi si elles tuent, etc. Donc voilà, mais il y a aussi voilà, on règle ses comptes. Le témoignage de Morant, il parle de sa souffrance tout à fait légitime, etc. Mais il est dans un discours très santé mentale, même biomédicale compatible en fait, et il parle de l'errance diagnostique, il faut un diagnostic, et puis il s'en sort avec une pirouette il avait dit dans une interview, il avait dit oh, faut arrêter le politiquement correct, moi je dis je suis malade mental. J'avais trouvé ça un petit peu osé qu'un journaliste parle de politiquement correct comme ça, même si on le dit à toutes les sauces. Et c'est surtout, et c'est là où je veux dire aussi quand même, il faut remettre les choses un peu au clair sur la question des témoignages, parce que je pense que les gens doivent témoigner quoi qu'ils fassent, de la façon dont ils veulent. Mais en fait, Nicolas De Morant, il peut se permettre de dire je suis malade mental, tranquille, parce qu'en fait il est journaliste, Il fait partie, je suppose, d'une espèce de je sais pas de caste parisienne mondaine, j'en sais rien. Même si ce qu'il vit est très difficile, mais je sais pas un migrant qui est pas là depuis longtemps, je pense pas que ce soit que sa question ce soit de se dire je suis malade mental ou schizophrène ou quoi. D'ailleurs, on va lui dire qu'il est schizophrène de manière générale parce que les migrants on dit qu'ils sont schizophrènes. C'est assez prouvé. Donc il y a rien de bien politiquement pas correct ou je sais pas quoi à dire ça. Et moi-même, peut-être que je peux me permettre là de d'agent, on me la donne, c'est une chance pour moi, je le fais, je le saisis et j'arrache la parole. C'est pas une question de libérer, c'est que j'arrache le micro en fait. donc voilà. Donc il y a quand même, je veux quand même rendre un peu voilà la part au témoignage. Je pense qu'il faut le faire, mais moi voilà ce qui me saoulait, c'est que ça a été écrit dans ce contexte là et que de toute manière je sais pas me raconter de manière linéaire, donc je sais pas le faire. Moi j'aime bien rigoler, mais d'ailleurs sur la question de l'humour, je pense qu'il faut faire la différence entre, je pense que c'est un livre qui n'est pas marrant parce que ça parle pas de, mais il y a de l'humour. Et après, du coup, à chacun de s'y retrouver, de s'y retrouver. Moi, j'adore les jeux de mots. J'adore détourner des gros livres de philo pour en faire des titres à moi, tout drôle. Donc voilà. Donc moi, je pense que au contraire, il faut saisir ce truc-là un peu chiant de la santé mentale. Tout le monde le fait. Je pense. Moi, j'ai essayé de le faire parce que je peux le faire. Et c'est en tant que diagnostiqué bipolaire que je le fais. Voilà.
Ah, j'ai juste en fait, quand tu nous as envoyé le manuscrit, très honnêtement, ce qui fait que j'ai dit ah bingo, c'est sûr, on le publie, c'est que la première citation qui ouvrait le livre que tu avais mis, c'était une citation de Lunatique, il n'y a pas de bonheur sans problème. Et on s'est dit avec Alexandre, avec qui on s'occupait de ça, on se dit une citation de Lunatique en intro sur un livre sur la folie, c'est beaucoup trop drôle pour ne pas le publier. Et là, t'es allé un peu vite en besogne sur Demorand. Je ne sais pas du tout ça pour s'acharner sur Demorand, mais quand tu disais ça, tu as dit ah oui, il est biomédical compatible. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, enfin, santé mentale compatible, et qu'est-ce que c'est, quoi le problème avec ça?
Je ne sais pas si c'est un problème, mais moi j'ai l'impression que ce que réclame Nicolas Demorand, c'est de meilleurs diagnostics. Alors que moi, je critique de manière générale les diagnostics, mais pas pour qu'ils soient meilleurs. C'est parce que je pense qu'ils recouvrent pas grand-chose et qu'ils enferment plutôt. Lui a l'air de coller à ça. Il parle des médicaments. Je pense que il a un traitement lourd, mais il est dans cette vision un peu individualisante de voilà, pour aller mieux, faut croire aux avancées de la psychiatrie, et il faut une meilleure prise en charge, peut-être plus de moyens, je sais pas s'il le dit comme ça, mais voilà, et des diagnostics plus précis. C'est ce que dit par exemple plus ou moins la, je ne sais plus si c'est une fondation, mais c'est Fondamental, je crois, qui est une espèce de fondation qui travaille sur les neurosciences et surtout sur la question de l'expertise, notamment, et du diagnostic, de perfectionner.
Est-ce que tu peux bien, enfin, parce que bon,
ouais, moi, peut-être que je suis pas clair.
Non, t'es très clair, mais je pense que ça demande des précisions, enfin, parce que bon, moi j'ai donc de fait lu le livre et donc je vois très bien ce qu'il y a dedans, mais quand tu dis le diagnostic, il recouvre pas bien exactement, enfin, il coïncide pas exactement avec la réalité. Est-ce que ça, tu peux un peu expliquer ce que, enfin, en quoi on va dire quasiment le concept de diagnostic ou la pratique du diagnostic va pas de soi quand on est diagnostiqué, par exemple?
Bah déjà ça va pas de soi parce que bon, déjà moi quand on m'a diagnostiqué, par exemple, bah, je vais prendre mon exemple, hein, tout ça, comme ça va être clair. Quand on m'a diagnostiqué bipolaire, j'avais eu quelques petites choses par-ci par-là, mais j'avais je n'avais pas les tenants et les aboutissants de ce que ça recouvrait. Donc on disait bipolaire, bon, moi je me disais oui, phase maniaque, phase dépressive. Moi dans ma tête, je m'étais pas forcément rendu compte que j'avais fait des phases dépressives par exemple. Par contre, effectivement, les choses qui recouvrent la phase maniaque. Alors la phase maniaque, c'est, on dit que c'est de manière générale une espèce de d'euphorie, d'humeur excessive, etc. Moi je parlerais plutôt d'énergie et d'intensité. C'est qu'en fait on vit les choses de manière très 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 intense, de façon à explorer des choses qu'on n'explore pas en temps normal, on va dire. En fait, moi j'ai l'impression que je ne suis pas bipolaire, mais je suis plutôt multipolaire, en fait. Me renvoyer à mégalomanie, parce qu'en fait, dans la phase maniaque, c'est mégalomanie, logorée, etc., etc., je trouve que ce sont des petits termes qui réduisent et qui nous empêchent de justement peut-être d'aller les questionner, ces événements-là. Quand on est enfermé, quand on nous enferme dans un diagnostic, j'ai l'impression que finalement c'est les mots qu'on nous donne, donc logorée, mégalomanie, fuite des idées, lien entre deux choses qui n'ont pas lieu d'être. Après il y a des choses assez factuelles comme ne plus dormir. Moi en fait je me rendais même pas compte. C'est vrai que souvent quand c'est un point, je me rends plus compte que genre.
Tu dors pas, tu veux dire?
Que je dors pas et que je dors pas et aussi que je mange ou que je mange pas ou que en fait et du coup il y a une phase maniaque où j'ai perdu une vingtaine de kilos. Donc il y a une réalité. Moi la réalité je la nie pas, mais derrière tous ces termes de diagnostic, tout ça, j'ai l'impression que ça crée une espèce de je sais pas d'enveloppe qui empêche et de voir peut-être des choses qui sont peut-être de l'ordre de, je vais dire de manière très romantique ou quoi, mais de la créativité, je pense que voilà, mes jeux de mots dans mes textes, sans prétention, je sais que ça vient de là, parce que quand par exemple je sais pas, dans deux semaines je me mets à parler un peu vite à ma compagne et puis que je fais des jeux de mots sur des trucs complètement, enfin attention, parce qu'elle me connaît, si j'en fais trop il y a
un monde de jeux de mots autorisé,
mais on pourra en parler de ça d'ailleurs, de des personnes qui font et du coup le diagnostic il crée une espèce d'image pour moi plus qu'il ne rend véritablement.
Oui, c'est en gros, ça fait si j'essaie de traduire ce que tu dis, c'est comme si ça faisait une espèce de petite case qui n'arrive pas du tout à contenir la diversité, ouais, des expériences, la diversité, la complexité, la nuance, etc., mmh, etc. Et tout le monde rentre dans cette petite case et en fait, ça correspond pas à la réalité, en fait.
Bah, pour moi, ça ne correspond pas à ma réalité, à moi. C'est ce qui me fait dire que je ne suis pas bipolaire, par exemple, mais que ça y ressemble. Et en fait, je trouve qu'il y a des malentendus. C'est-à-dire que moi, c'est pas parce que je critique le diagnostic tel qu'il est établi et que je n'ai aucun espoir sur un diagnostic qui dirait « Ah, Jonathan, c'est Jonathan », ce n'est pas pour ça que je nie les difficultés qu'ont les personnes qui ont rencontré, enfin, qui ont fait l'expérience d'une phase qui les dépassait de parano et qui sont allées à l'hôpital psychiatrique parce que à ce moment-là, il y avait rien d'autre que ça. Je ne nie pas, mais j'essaie en tout cas quand je fais parler ma maladie mentale, qu'elle commence par je suis ta maladie mentale, c'est ça du coup, ce petit pic à Nicolas Demorand, mais elle en fait c'est ce qu'elle dit, elle dit mais pourquoi vous me nommez comme ça? Pourquoi vous me nommez comme ça? C'est pas du tout ça, et peut-être qu'au final vous avez peur de moi, si j'ose dire, et que je recouvre quelque chose de bien plus bien plus dangereux, on va dire. Mais je vais prendre l'exemple, d'un exemple, parce que là, on parle de la bipolarité, et je suis pas sûr que tout le monde connaisse, mais ne serait-ce que la dépression, ou le burn-out, on va mettre des mots, la dépression, et en fait, on a tout un imaginaire qui a été créé autour de ça, et ça devient plus qu'une question individuelle. C'est-à-dire, je suis dépressif, parce que peut-être j'ai une petite constitution, ou peut-être que je suis plus fragile. C'est ça, France Dépression, par exemple, souvent, on a ce genre de truc, quoi.
Explique ce que c'est France Dépression.
France Dépression, c'est l'association dans laquelle je suis, qui est un groupe de parole autour de, du coup, de.
On y reviendra, mais juste pour qu'on.
Ouais. Qui est un groupe de parole. Et donc, c'est des gens qui ont été soit diagnostiqués bipolaires ou qui connaissent une dépression, qui ont connu, ou des proches, qui viennent et on discute, et c'est cool. Et en fait, la dépression, en fait, elle serait vue que sur cet angle-là individuel, et donc, du coup, les médicaments, le diagnostic, les médicaments, éventuellement l'hôpital psychiatrique, si vraiment c'est très dangereux, mais il est difficilement discutable. On peut difficilement discuter l'aspect peut-être politique de la dépression, quoi, ou en tout cas le devenir possible de la dépression. Je pense que c'est plus clair pour la dépression, parce qu'on dit bon, bah la dépression peut-être le travail, etc. On peut peut-être se dire bah voilà, si les structures institutionnelles étaient mieux, bah peut-être que les gens seraient moins mal. Et ben moi je pense qu'aussi la bipolarité, les phases maniaques, écouter les gens quand elles arrivent, ces phases maniaques, à quel moment, est-ce que c'est sur des facteurs émotionnels importants, qu'on discute vraiment de ça. Moi, on a discuté de ma bipolarité, on a rarement, les professionnels ont rarement, m'ont jamais dit « Alors, Jonathan, ça fait un an que t'as fait ta phase maniaque. Raconte-nous, t'en es où? Qu'est-ce que t'as fait? T'as brûlé de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as envie? » Non, mais je sais pas. Je pense que souvent ce sont les mêmes structures qui structurent la phase maniaque. Mais
parce que t'as vraiment brûlé de l'argent.
J'ai vraiment brûlé de l'argent et je me suis vraiment foutu dans la merde pour le coup. Donc c'est la réalité et c'est pas drôle parce que c'est pas drôle du tout. J'étais à l'HP pour ça et voilà. Mais en fait je crois véritablement au fait que qu'on puisse discuter de ça, comme Hello dans son livre Barge le fait, à quel moment ça arrive et qu'est-ce que ça peut changer à la fois individuellement, c'est-à-dire que moi certaines phases qu'on a considérées maniaques ont permis de me questionner sur certaines choses. Et il y a une phase maniaque, bon, je n'ai pas parlé parce que pour le coup c'est pas que j'avais pas spécialement envie, c'est que tout simplement j'ai pas trouvé la forme. Là tu posais la question tout à l'heure, ouais, d'où ça vient, bah là en fait je me disais il faut que j'en parle, mais je savais pas comment. Et en fait, parce qu'on rigole, mais voilà, il y a des choses qui sont un peu moins drôles. Moi, j'ai fait une décompensation maniaque à la naissance de ma fille. Et du coup, j'ai été à l'hôpital psychiatrique. Mais j'ai mis un an ou deux vraiment à essayer de parce que c'est vraiment arrivé au moment où elle est, le jour où elle est née. Et en une semaine, je suis parti dans une phase de parano assez importante où en fait la seule solution là pour le coup c'était l'hospitalisation. J'y suis allé dans un clair de lucidité. J'y suis allé et voilà. Mais en fait, c'est parce que ma paternité n'allait pas de soi. On n'a même pas discuté de ça, en fait. Alors un peu avec la psy, mais par contre, la psychiatre, elle m'a dit, bon, c'est vrai quand même que la naissance d'un enfant, c'est beaucoup d'émotions. Mais vous voyez bien, tout le monde ne fait pas ça. Et donc en fait, bon, c'est à la fois normal et pas normal. Du coup, donc moi, j'arrive pas à me situer. Et voilà. Et je trouve que ça a été J'aurais aimé ne pas y passer par là, mais ça a été peut-être aussi quelque chose qui m'a fait questionner sur qu'est-ce que c'est la paternité, d'autres choses, et elle a été un peu salvatrice quelque part. Et moi j'en ai, je sais que ça peut être très mal vu ce genre de discours, parce que dans un texte on aurait presque envie de dire qu'elle était bien notre petite phase manière. Il faut pas le dire, évidemment. Il faut dire qu'on souffre. Et moi, franchement, je souffre d'une certaine manière. Mais en fait, la créativité que je peux avoir, soit dans l'écriture, mais aussi dans le dessin, parce que je dessine beaucoup, elle vient de là. Elle vient de là. Alors ça fait un peu, je sais très bien ce qu'on peut dire, c'est très romantique, mais c'est la réalité, en fait. C'est la réalité. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans un CMP pour voir, au crêpe du coup, pour voir le nombre de personnes qui dessinent ou qui sont très talentueux et qui essaient d'exprimer par différents moyens des fois leur souffrance. Ce que je veux dire, c'est que clairement la conclusion là de tout ce petit point, c'est que je ne supporte pas qu'on parle à ma place. Je ne supporte pas sur ce sujet-là. Je ne supporte pas. Et souvent, le dispositif médiatique, politique, c'est ça. C'est par discours de sachant, quoi. Forcément faut les aider. Oui, moi clairement j'ai besoin d'aide. Par contre, de plus en plus, je me dis que la psychiatrie ne m'aidera pas. Vraiment. Je le pense, c'est pas là que c'est plus là. Alors évidemment, là j'ai des médicaments, j'en suis complètement dépendant de ce truc, complètement dépendant, mais parce que c'est le seul truc que de vraiment, on va dire, d'immédiat, et j'espère que ce livre, c'est pour penser autre chose, et j'espère que je pourrai, et qu'on pourra, pour ceux qui le veulent, penser autre chose. En fait, le truc, la question des diagnostics, la question de la psychiatrie, c'est l'hégémonie, en fait. C'est qu'il n'y a rien d'autre que ça. Si clairement tu commences un peu à remettre en question les médicaments, mais de manière ça commence à être compliqué. Alors, tout le monde s'accorde pour dire que c'est chiant de les prendre et qu'il y a des effets secondaires. C'est sûr, tout le monde s'accorde, mais
c'est par là, c'est aussi, je trouve, un des points, un des angles un peu les plus, je sais pas si fin c'est le mot, mais en tout cas les plus acérés un peu du livre, c'est que tu parles aussi depuis l'intérieur de tes contradictions, en fait, et notamment, enfin, et ça tu le racontes aussi, c'est qu'il y a, enfin, il existe, bon, je pense que ceux qui regardent cette émission là le savent, mais si c'est pas le cas, il existe tout un courant qu'on appelle l'antipsychiatrie, qui consiste, enfin, qui existe depuis quelques décennies, et qui consiste à rejeter la psychiatrie, etc., etc. Mais toi tu dis, tu vois, dans le fond, moi, ce que je comprends dans le livre, c'est que tu dis, ouais, mais l'antipsychiatrie, c'est très bien formellement, c'est très bien idéologiquement. On ne peut que être d'accord avec les diagnostics de tout ce qui ne fonctionne pas, de comment est-ce que ça reconduit des dispositifs de pouvoir absurdes, etc. Et en même temps, tu dis, oui, mais ça, c'est le point de vue idéologique vu du ciel. Et en fait, quand on est depuis l'intérieur de sa bouteille de médoc, en fait, ça correspond pas à ce qu'on vit non plus, quoi. Et ça, je trouve, tu racontes quand même assez bien comment tu louvoies, dans le fond, entre une critique générale de la manière dont tout ça fonctionne et une appréhension au ras du réel et au ras de l'expérience de ce que c'est au quotidien, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais En fait, moi, j'ai envie de dire quand même que l'antipsychiatrie, en tout cas actuelle, j'ai l'impression qu'elle se, à travers la Malpraille par exemple, elle se pose surtout la question de évidemment il y a les violences, il y a la question de la contention, de l'isolement, Moi, j'en parle pas dans mon livre parce que j'ai décidé de parler de que ce que je connais, donc c'est-à-dire l'hospitalisation sous contrainte. Évidemment, j'en connais, mais des personnes qui ont été isolées et contentionnées, et il faut abolir ça. Mais en fait, j'ai l'impression que la question de l'antipsychiatrie, de manière générale, c'est la question de déjà. Je pense que beaucoup se disent, et donc, moi c'est ça, être contre les médicaments, là, comme ça, avoir une position assez, on va dire, en surplomb comme ça, c'est difficile, mais par contre, se battre déjà pour, et là, je pense que je vais pas parler pour l'antipsychiatrie, mais en tout cas, on va dire la place que moi je décide de m'octroyer dans l'antipsychiatrie, c'est déjà la connaissance des médicaments, par exemple. C'est-à-dire que quand tu arrives en HP sous contrainte, ils réfléchissent pas, hein. Ils te donnent les cachetons, soit tu les prends, si tu les prends pas, bah c'est injection, et ils te disent pas ce que c'est. Et donc t'es obligé, et à partir de là, même quand, une fois que tu sors, tu fais quoi? T'as pas envie de retourner dans ta phase dépressive ou ta phase maniaque, même si je dis qu'il y a des choses, t'as pas envie. Et du coup, bah on te dit, bah monsieur, vous êtes bipolaire, le lithium, bah, c'est quoi le lithium? Et je trouve qu'en fait il y a pas d'alternative véritable à ça. Moi ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est déjà qu'on ait une véritable connaissance de tout ça, et après, par contre, bah en ce moment se montrent des collectifs comme la Mad Pride, où en fait là la question elle est plus d'ordre de c'est quoi le soin. La psychiatrie, moi j'irais plutôt que c'est de la gestion, c'est de la discipline violente. Mais c'est pas du soin. C'est pas du tout du soin. Je pense qu'il y a même des psychiatres qui sont d'accord. Et ça, je pense que c'est même pas Et donc du coup, ce qui est important, c'est comment nous on fait du soin. Et moi, je suis arrivé à la Mad Pride, et j'y suis de manière un peu périphérique, quoi. En plus, c'est beaucoup à Paris. En fait, j'ai compris. Ce qui m'a aidé le plus, c'est France Dépression. Et France Dépression, c'est vraiment l'association, la plus basique. C'est un groupe de parole. Il n'y a pas de questions politiques derrière. D'ailleurs, moi, ça peut me poser problème à certains moments. Mais le simple fait, en fait, de se rencontrer à l'extérieur, et ben, je pense que ça change tout. Se regarder, se sourire, même des fois, même pas se donner des conseils, même pas, ça change beaucoup de choses. Et je pense que France Dépression, sans le savoir, c'est, on va dire, premier degré de la politique, et de ce que moi, je dis dans le livre, c'est le commun. En fait, je pense qu'on a besoin de commun, c'est-à-dire que la psychiatrie, elle l'atomise. À mort, et c'est ça qu'il faut retrouver. Et je le retrouve même un peu dans le CREP, qui est un dispositif de réhabilitation, qui est au sein du c'est au même lieu que le CMP chez moi, mais et du coup, bah on a des activités de remédiation cognitive, et là, bah je rencontre des gens, et moi, c'est ça, en fait, qui me plaît. D'ailleurs, le passage que t'as lu, c'est ça. C'est ce que je retiens, en fait. C'est les gens qui sont là-bas. C'est les gens que j'ai connus. Et c'est pour eux, en fait, que j'écris le bouquin. Parce que comment, en fait, ils sont enfermés là-dedans. En vérité, les molécules, les injonctions, les diagnostics, ça étouffe complètement. Moi, je sais pas comment je pourrais expliquer ma période de 10 ans, mais oui, j'étais quelqu'un d'assez, j'étais pas complètement militant, mais en tout cas, j'avais de l'énergie politique. J'étais dépolitisé de manière générale, parce qu'en fait, moi, mes soucis, c'était quoi? C'était d'avoir mes médocs, c'était de plus retourner à l'HP. Et ça, c'est le truc le plus... Enfin, moi, c'est mon leitmotiv, en fait. Ne plus retourner à l'HP. Ça, je pense que les psychiatres, faut qu'ils l'entendent. Il faut qu'ils l'entendent. C'est que moi, je prends pas les médicaments complètement parce que j'ai pas envie d'avoir ma phase maniaque ou parce que j'ai pas envie d'avoir ma phase dépressive. Et c'est une réalité. Je prends mes médicaments pour plus retourner à l'HP. Parce que je me sens en sursis de ce truc, de ce truc-là. Et j'en ai peur. Et voilà. Et...
Soleil. Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.